ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
Alors voilà, ça c'est une petite prière qui veut dire, c'est juste trois mots en fait. Ça veut dire j'offre mon hommage à Dieu, la personne suprême, Krishna ou Vasudev. Voilà. Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate, Vasudevaya. En fait, il y a quatre mots. C'est le premier, c'est l'invocation du Srimad Bhagavatam. C'est le premier verset dans le Srimad Bhagavatam. C'est ces quatre premiers mots-là qui sont chantés. Alors, c'est dit qu'avant de réciter le Bhagavatam, on devrait offrir son hommage à Dieu, la personne suprême. Alors, c'est pourquoi on chante Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous, c'est des cours de Sri Upanishad. C'est pas grave. On le fait pareil pour se mettre la faveur de Krishna de notre côté pour le cours. Alors, voilà. Est-ce que Lynn, tu voudrais lire?
Oui, alors, le but ultime de la vie s'illumine de toute sa splendeur dans le cœur de quiconque s'efforce d'écouter régulièrement les enseignements salutaires d'un pur dévot du Seigneur. Il verra ainsi disparaître de son cœur tous les obstacles à son progrès spirituel. Ceci est confirmé dans le Srimad Bhagavatam 1.2.18, Nasta Prayasv Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. Nashta détruit Prayeshu pratiquement Abhadreshu tout ce qui est de mauvais augure, Nityam régulièrement Bhagavata le Srimad Bhagavatam ou le pur Bhakta Sevaya en servant Bhagavati le Seigneur suprême Uttama spirituel et absolu. Shloke prière Bhakti service d'amour Bhavati devient Nashtiki irrévocable. Par l'écoute suivie du Srimad Bhagavatam, comme par le service assidu offert au pur dévot du Seigneur, tout ce qui trouble le cœur du Bhakta devient pratiquement néant. Et le service d'amour offert au Seigneur suprême, qu'on glorifie par des hymnes sublimes, s'y établit alors irrévocable. Teneur et portée. Voilà le moyen d'éliminer du cœur de tous les éléments défavorables qui s'y trouvent et qui certes font obstacle à la poursuite de la réalisation spirituelle. Demeurer au contact des Bhagavata, du livre Bhagavata comme de la personne Bhagavata. Tous deux constituent de puissantes forces purificatrices et leur puissance, séparée ou combinée, suffit à abattre tous les obstacles. La personne Bhagavata ou le Bhakta vaut le livre Bhagavata car elle modèle entièrement sa vie sur ce livre lequel regorge d'informations concernant le Seigneur suprême et ses purs dévots. Le livre Bhagavata et la personne Bhagavata sont noms différents l'un de l'autre. La personne Bhagavata est un représentant direct de Bhagavan, le Seigneur suprême. Et en accédant à ses souhaits, on peut retirer tout le bienfait qui s'attache à l'étude du livre Bhagavata. La raison humaine est défaillante lorsqu'il s'agit de comprendre comment on peut graduellement progresser sur la voie dévotionnelle en servant la personne ou le livre Bhagavata. Mais Srila Narada Deva explique ce fait en citant son propre exemple. Il était, dans sa vie antérieure, le fils d'une servante engagée à servir humblement de grands sages, et il se trouva ainsi lui-même à leur contact. Or, par le simple fait d'être en leur compagnie et d'accepter les reliefs de leur repas, ce fils de servante devint le grand et célèbre Bhakta Srila Narada Deva. Tels sont les effets miraculeux du contact avec les Bhagavata. Et pour permettre une compréhension pratique de ces effets, notons qu'en recherchant avec sincérité la compagnie des Bhagavata, on s'assure d'acquérir facilement le savoir spirituel pour alors devenir fermement établi dans la pratique du service de dévotion. Progresser dans la voie dévotionnelle sous la direction des Bhagavata s'identifie à un établissement de plus en plus ferme dans la pratique du service offert au Seigneur. Le message du livre Bhagavata doit donc être reçu de la personne Bhagavata et l'alliance de ces deux Bhagavata aidera le Bhakta néophyte à toujours progresser davantage vers le but désiré. À travers l'ISKCON, Srila Prabhupada a soumis...
Excusez. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Et on va continuer alors. Peux-tu continuer, s'il te
Oui,
plaît?
à travers l'ISKCON, Srila Prabhupada a tout mis en place pour que des générations à venir puissent emprunter la voie authentique du Vaishnavisme, ou en d'autres mots, l'entière mise en application de la fonction éternelle de tous les êtres que l'on appelle le Sanatana Dharma. Dans l'introduction de la Bhagavad Gita telle qu'elle est, Srila Prabhupada écrit: Or, le Sanatana Dharma, par définition, est immuable. On ne peut enlever à l'âme sa fonction éternelle, pas plus que sa liquidité à l'eau ou que sa chaleur au feu. Le Sanatana Dharma est inhérent à l'être éternellement. Srila Prabhupada a mis en place une institution permettant à tous les hommes de retrouver leur fonction éternelle d'âme spirituelle et de s'y épanouir. Telle est la magnanimité incommensurable de Srila Prabhupada envers qui l'humanité a une dette qu'elle ne pourra jamais combler. Il s'agit d'une dette d'amour qui ne peut être repayée que par le même ingrédient motivateur, le pur amour de Dieu éveillé dans le cœur de chacun. Il fallait un élément déclencheur pour que la société se mette en marche sur la voie du retour à la vie spirituelle authentique. Srila Prabhupada s'en est chargé en suivant l'instruction qu'il avait reçue de son maître spirituel de venir en Occident prêcher en anglais. Contre toute attente au début, Srila Prabhupada connut le succès. L'ISKCON est une histoire à succès, celle de la succession disciplique parvenue à transposer en Occident la perle de toutes les perles, l'essence de la civilisation védique, la conscience de Krishna. Au départ, à la tête de l'institution, l'International Society for Krishna Consciousness, il en est l'acharya fondateur, le pur dévot, qui sert de modèle pour tous. Il est l'idéal personnifié pour tous ses membres. Son exemple de pureté est indispensable, de même que ses instructions, Gauravani Pracharine, pour se purifier et ainsi se qualifier pour retourner auprès de Dieu. Sans purification, il est pratiquement impossible, voire impensable, d'atteindre le but ultime de la vie, précisément d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour ce faire, la grâce du pur dévot est indispensable pour les âmes déchues qui veulent se joindre au mouvement pour la conscience de Krishna. C'est pourquoi, très tôt dans le mouvement, Srila Prabhupada a exigé l'observance des quatre principes régulateurs afin de libérer tout disciple d'actes coupables qui en soi constituent autant d'obstacles sur la voie du retour à Krishna. Aujourd'hui, Srila Prabhupada n'est pas physiquement présent, mais il l'est toujours à travers ses instructions, Gauravani Pracharine. Comme il s'agit d'un être réalisé, établi au niveau absolu, où il n'y a pas de différence entre la personne et ses instructions, tous peuvent toujours y gagner à suivre ses instructions divines. Il est ce médium transparent que se doit d'être tout gourou authentique. Il est Jagat Guru, un maître spirituel qui peut libérer l'univers. ISKCON comprend tout, gourou, sadhu et shastra. L'institution est là, elle est bien vivante. On y trouve, premièrement, des gourous en bonne et due forme, marchant sur les traces de Srila Prabhupada, l'acharya fondateur de l'ISKCON, et deuxièmement, des sadhus, des dévots pratiquant la conscience du Krishna, et troisièmement, des shastras principalement composés des livres de Srila Prabhupada qu'il jugea lui-même suffisants et indispensables pour un solide entendement des Écritures. Sur une base de la foi en la puissance transcendante de l'institution, il faut savoir apprécier l'ISKCON à sa pleine valeur. À cette fin, tout est question de bonne foi dans l'institution et la grâce combinée de Krishna et de Srila Prabhupada la protège sous l'influence de l'énergie divine du Seigneur, Devim Prakritim Ashrita, Bhagavad Gita 9.13. L'institution est glorieuse et s'avère un refuge inestimable pour traverser l'océan des naissances et morts. Krishna y attire les âmes sincères et les rend capables, toujours dans le cadre de l'institution, de faire du bien pour les autres et par le fait même également pour eux-mêmes. Telle est la philosophie de l'arrosage de la racine de l'arbre. Ce faisant, toutes les parties de l'arbre sont comblées. Il s'agit d'une formule mutuellement gagnante du début à la fin pour tous les membres en bonne et due forme de l'ISKCON. Ainsi, tout concorde à travers les enseignements transcendantaux de Srila Prabhupada. Par sa grâce, l'institution est là pour rester pour des générations. Bharata Bhumite Ela Manushya Janma Yara, Janma Sartaka, Karikara Para Upakara. Chaitanya Charitamrita a dit 9.41. Le monde entier souffre par manque de conscience de Krishna. C'est pourquoi Sri Chaitanya Mahaprabhu a conseillé à tous les êtres humains nés en Inde de rendre leur vie parfaite grâce à la conscience de Krishna, puis de propager l'évangile de la conscience de Krishna dans le monde entier, afin que tous puissent devenir heureux en exécutant les principes de la conscience de Krishna.
Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, c'est une glorification de ISKCON en bonne et due forme.
Ouais.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on peut dire que... On va faire notre petite prière avant, là. Om Agyana Timarandasya Giranjana Sanakaya Chaksur Unminitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Prabhupada Ki Jai. Alors, malheureusement, si on se promène sur Internet, il y a certaines personnes qui se réclament dévots de Krishna, mais qui ont le sens de la critique pas mal négative par rapport à ISKCON. Ça vaut ce que ça vaut, ça peut être justifié jusqu'à un certain degré, mais quand on regarde justement d'un point de vue transcendantal, ce à quoi sert ISKCON, le pourquoi de l'existence de ISKCON. ISKCON, ça veut dire International Society for Krishna Consciousness. C'est traduit en français au Canada. La Société internationale pour la conscience de Krishna. En France, c'était traduit par l'Association internationale pour la conscience de Krishna, laquelle n'existe plus d'un point de vue légal en France. Ils ont un autre nom. Et vu que je ne suis plus en France, je ne sais pas exactement c'est quoi le nom, là. Mais quand même, le mouvement pour la conscience de Krishna est présent en France et continue. Et c'est un mouvement d'envergure internationale. Il y a des centres, des temples sur tous les continents. Et là où on peut peut-être s'attendre le moins à ce qu'il y en ait, il y en a quand même. Comme par exemple en Chine. En Chine continentale ou à Hong Kong, il y en a. Et en Chine continentale, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de dévots, dévotes en Chine continentale, que normalement, ça peut être plus difficile parce que c'est un pays communiste, mais les dévots ont la chance là-bas. Le gouvernement lui-même se charge d'imprimer les livres de Srila Prabhupada. Alors, imaginez ça. C'est le gouvernement qui imprime les livres de Prabhupada en Chine. C'est pas les dévots, c'est le gouvernement lui-même. Alors, le gouvernement a dû trouver que dans les livres de Prabhupada, il y avait de quoi de bon. Alors, il prend la responsabilité d'imprimer les livres de Srila Prabhupada. Alors, ici, dans ma famille, on avait une belle-sœur qui n'est plus là maintenant, mais elle travaillait pour Reader's Digest pendant plusieurs années. Et elle disait justement qu'ils ont essayé pendant des années à faire imprimer Reader's Digest en Chine. Ils n'ont jamais réussi. Mais les dévots, eux, ils ont réussi. Et c'est le gouvernement qui imprime leurs livres des dévots de Krishna. Alors, c'est extraordinaire. Alors, là où il y a une volonté, comme on dit, qui veut peu, alors, s'il y a de la volonté, il y a de quoi qui peut s'accomplir. Et par la grâce de Krishna, quand les dévots veulent quelque chose, ben Krishna donne les facilités. Si c'est conscient de Krishna, Krishna éventuellement donne facilité pour que ça réussisse. Alors, comme par exemple, sur le Prabhupada, comme on vient de lire aujourd'hui, quand il a débuté ISKCON, à New York. C'était pas évident, il y avait rien. Il y avait rien, il était tout seul. Il y avait presque rien. Quand M. Prabhupada est venu à New York, il y avait une valise avec des Srimad Bhagavatam dedans. Il y avait des cartables. Et puis, c'est à peu près ça. Presque pas d'argent. Une quarantaine de dollars en débarquant du bateau. Et dans lequel bateau, il a eu deux crises cardiaques. Alors, il a persévéré. Et puis finalement, dès qu'il a pu, il a fondé l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Il a incorporé, ce qu'on dit. Il a incorporé en juillet 1966, si je ne m'abuse, l'Association pour la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui.
Oui.
Oui, moi j'ai retenu qu'en fait, sans purification, c'est impossible en fait d'atteindre le but ultime. C'est vraiment important dans notre vie de tous les jours. Pour moi, c'est l'axe le plus important en fait.
Effectivement, parce que
justement. C'est pas facile parce qu'on est voilà, on est incarné quoi. On a quand même malgré tout, donc c'est pas évident.
Alors, Srila Prabhupada donne un exemple. Un exemple en ce qui concerne la purification. Alors, il dit, si vous avez un encrier qui est plein d'eau, il n'y a pas d'encre qui peut entrer dans l'encrier. Ça, c'est le processus de purification. Alors, la purification se joue ou s'opère en deux aspects. Un aspect négatif et un aspect positif. Négatif, ça veut dire qu'il y a des interdictions, il y a des restrictions, des obligations qu'on suit soi-même, de ne pas, si vous voulez, empirer notre situation en termes d'activité pécheresse, ne pas s'adonner à ces choses-là. Alors, c'est pourquoi il y a quatre principes. Pas de sexe illicite, pas de jeu de hasard, pas de consommation de chair animale et pas d'intoxication. Ça, ce sont les quatre piliers des activités pécheresses. Alors, si on veut progresser dans la vie spirituelle, il faut suivre ces principes-là. S'abstenir des quatre choses. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est justement, comme Virginie vient de le mentionner, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a bien des choses dans notre esprit. Alors, faut venir mettre le positif dans notre mental, alimenter notre mental, nourrir notre mental, du positif. Et ça, c'est le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, les écritures sacrées. Ça va mettre Dieu dans notre esprit, dans notre cœur. Et puis, on va finir par décider pour soi-même d'opter, parce que c'est un choix. C'est un choix de vie. Opter pour une vie qui va dans le sens de la purification de la vie et non dans le sens contraire. Parce que ça, la vie continue tout le temps. Alors, soit on avance, mettons, du côté gauche ou soit on avance du côté droit, mais dans une façon ou d'une autre, on va avancer, soit d'un bord, soit de l'autre bord. Alors, pour progresser spirituellement parlant, la recette est donnée aujourd'hui. C'est le Srimad Bhagavatam, premier chapitre, premier chant, deuxième chapitre, verset 18. Nasta Preshu Abhadreshu, Nityang Bhagavata Sevaya, Bhagavati Utamashloke, Bhaktir Bhavati Naishtiki. Ça, c'est un verset qui est récité chaque fois avant une classe de Srimad Bhagavatam. Les dévots chantent ce verset-là. C'est pour montrer justement jusqu'à quel point c'est important d'écouter régulièrement le Srimad Bhagavatam et d'écouter avec une attitude aussi qui doit être appropriée. Et l'attitude, c'est une attitude, il y a deux choses. Une attitude de respect et, deuxièmement, une attitude avec attention. On peut pas juste aller à une classe de Srimad Bhagavatam avec notre corps présent, mais l'esprit n'est pas présent. L'esprit se promène à gauche puis à droite, puis quelqu'un, parce que c'est de bonheur le matin, le Srimad Bhagavatam, c'est vers les 6h, 7h, 8h, ça dépend de l'horaire du temple, l'emploi du temps. Alors, parfois, des fois, on voit qu'il y a des dévots qui vont à la classe et qui cognent des clous pendant la classe. Alors, ça, faut faire attention parce que, justement, le Srimad Bhagavatam devrait être écouté avec respect et attention. On essaie d'écouter bien comme il faut, le mieux possible, et puis de retenir les points. Et c'est pas tout le monde qui va retenir la même chose non plus. C'est très individuel. Une personne va retenir plus tel sujet, une autre personne va retenir tel autre sujet, parce que en apparence, les sujets qui vont se rappeler, dont ils vont se rappeler, semblent le plus pertinent à ce moment-là. C'est la même chose que lire les Écritures, lire la Bhagavad Gita, par exemple. Vous lisez un jour, vous revenez lire le même passage un mois, deux mois, un an, 20 ans plus tard, ça va avoir une autre saveur. Il va y avoir quelque chose qui va ressortir et qui va attirer votre attention ou capter votre attention. C'est comme ça que c'est. Alors, plus on se purifie, Prabhupada explique, que plus on a de nouvelles illuminations de la part des Écritures. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est comme si on va à l'école et en première année, le professeur, tu sais, aller à l'école en première année, c'était un 5-6 heures par jour. Tu arrives là à 9 heures le matin, tu sors de là à 3 heures l'après-midi ou peut-être un peu moins, là. Ça fait longtemps, là. Je me souviens pas trop, précisément. Puis un autre étudiant, lui, est rendu au secondaire, puis c'est la même chose. De 9h à 15h ou à 16h ou quelque chose comme ça, c'est l'école. Alors, mais c'est pas la même, si vous voulez, la même intensité ou le même volume d'informations à retenir ou qui est présenté, mais c'est de l'étude pareil. Alors, c'est la même chose avec les Écritures. On lit et on essaie de se concentrer, avoir la bonne attitude et puis progresser de cette façon-là. Alors, il y a un point intéressant dans la teneur de portée que nous avons lu. C'est dit... C'est à la page 93, à la ligne 3, en haut. C'est écrit. Voilà. La raison humaine est défaillante lorsqu'il s'agit de comprendre comment on peut graduellement progresser sur la voie dévotionnelle en servant la personne ou le livre Bhagavata. Mais Śrīla Nārada Deva explique ce fait en citant son propre exemple. Alors ça, c'est comme la même chose qu'aller en Inde. Vous allez dans les lieux saints comme Vrindavan ou Mayapur. Juste être là, vous faites l'avancement spirituel sans vous en apercevoir. Alors c'est la même chose, être en présence d'un pur dévot, ou même toucher le livre de Srimad Bhagavatam, sans même le lire, juste le toucher. Prabhupada disait, toucher ces livres, même juste toucher, Pas lire, rien, juste prendre le livre, toucher le livre. Vous avez un avancement spirituel instantané. Alors, ça dépasse la logique et c'est, ça marche par la grâce de Krishna, simplement. Alors, comme personnellement, j'ai eu la grande fortune d'être en présence de Srila Prabhupada en France. Srila Prabhupada venait en France tous les ans, pratiquement parlant. Et c'était quelque chose, c'était spécial, la présence de Prabhupada. C'est inexplicable, il n'y a pas de mots vraiment, vraiment. Parce que Prabhupada explique dans une teneur reportée du Srimad Bhagavatam, le pur dévot est comme un aimant qui attire de nombreux, nombreux filaments par sa force, sa puissance. Alors, un pur dévot de Krishna attire les âmes conditionnées. Et on le voit par le nombre de dévots qui sont créés par la puissance, justement, d'un pur dévot, par la puissance de ses enseignements et de son exemple. Et comme on disait ici, c'est à la page 93, la ligne 39. Au départ, à la tête de l'institution, l'International Society for Krishna Consciousness, il en est l'acharya fondateur, le pur dévot qui sert de modèle pour tous. Il est l'idéal personnifié pour tous ses membres. Alors, pourquoi il est l'idéal? Voilà la question que je vous pose aujourd'hui. Comment est-il l'idéal, le modèle à suivre pour tous? Quelle est la réponse? On l'a lu. C'est dans les pages qu'on a lu. La réponse est là.
Parce que c'est un pur dévot de Krishna.
Oui, c'est un pur dévot, mais il faut un petit peu plus spécifique.
Oui, justement, c'est.
On l'a lu. La réponse est dans ce que nous avons lu. Dans la teneur reportée, 1, 2, 18. Page 93, regardez. Si on relit, là. Ben, si on prend juste page 93 en haut. Ligne 1. La personne Bhagavata est un représentant direct de Bhagavan, le Seigneur suprême. Et en accédant à ses souhaits, on peut retirer tout le bienfait qui s'attache à l'étude du livre Bhagavata. Bon, ça c'est un représentant direct de Bhagavan, mais la réponse, c'est que sa position, c'est qu'il est le Bhagavatam, en d'autres mots, personnifié. Il suit le Bhagavatam. C'est un exemple parfait. Alors, c'est comme ça qu'il est le plus qualifié possible. Et pour être à la tête du mouvement pour la conscience de Krishna, ça prend une personne Bhagavata, un pur dévot de Krishna. Et Prabhupada, je l'ai écouté dans une classe, Prabhupada me disait justement que pour être à la tête de ce mouvement, il faut qu'il y ait une personne sainte, une personne pure, qui donne l'exemple. C'est le modèle à suivre. Si Prabhupada n'était pas le modèle à suivre, ben, il n'y en aurait pas de mouvement. Parce que même ceux qui se disent être dans le mouvement trouveraient à un moment donné des fautes avec le fondateur. Il y aurait une imperfection en quelque part. Comme il y a tant de mouvements qui se disent spirituels, mais avec qui vous pouvez trouver des fautes chez le leader d'un mouvement en question. Alors, c'est pas la première fois que ça a arrivé, et ce ne sera pas la dernière fois non plus que ça va arriver. Il y en a eu dans le passé, il y en a peut-être dans le présent, ça je ne sais pas. Je me mêle pas de ça. Puis dans le futur, il y a bien des chances qu'il va en avoir. Il y en a toujours eu. Et c'est ce qu'on appelle des personnes qui sont en fait des imposteurs, qui prétendent être quelque chose qu'elles ne sont pas, pour l'amour d'avoir un paquet de disciples et profiter justement de tout ce que ça peut rapporter d'avoir beaucoup de disciples. Mais Prabhupada, lui, il n'était pas à la recherche de disciples. C'était pas le nombre qui lui intéressait. Alors, dans ce que Prabhupada a expliqué, tu peux avoir, dans le ciel, la nuit, tu peux voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étoiles. Mais ce qui intéresse dans le ciel, c'est d'avoir une lune. Il y a une différence entre une lune et les étoiles. Les étoiles, tu peux en avoir beaucoup. Mais la lune, t'en as une. Très rare. Alors, les purs dévots de Krishna sont comme la lune dans le ciel. Ils sont très rares. Et Krishna explique dans la Bhagavad Gita aussi, il y a un verset, chapitre 7, verset 3, dans lequel Krishna explique parmi des millions d'hommes ou des milliers d'hommes, il va en avoir un qui va s'intéresser à la perfection. Et parmi ceux qui atteignent la perfection, rare celui qui me connaît tel que je suis en vérité. Ça, c'est Krishna qui dit ça. Alors, pour connaître Krishna tel qu'il est en vérité, tel qu'il est, il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est que quelqu'un doit s'engager dans le service de dévotion. Alors, Krishna dit, Bhaktyamam abhijanati yavam yaschasmi tatvataham. Ce qui veut dire, on peut me connaître tel que je suis seulement par le service de dévotion. Alors, c'est comme si, par exemple, quelqu'un débute dans la conscience de Krishna, et s'il se dit, ben, je veux en apprendre plus, je veux en connaître plus, ça m'intéresse, patati patata, bien, c'est en continuant. Et il faut être très patient parce que c'est pas évident. On peut pas brusquer les choses, mais on peut travailler sur avoir une très bonne attitude d'ouverture, de réceptivité, et puis s'appliquer à suivre les enseignements. Et puis, une des bonnes façons de progresser en ce qui concerne assimiler les enseignements, c'est d'essayer de les transmettre aux autres, simplement. C'est la façon que ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Shravanam, ça veut dire écouter. Et Kirtanam, ça veut dire glorifier ou décrire les gloires de Krishna. Alors, il n'y a rien de mieux que d'écouter et ensuite saisir une opportunité pour en parler à quelqu'un d'autre, soit dans le public ou soit dans l'entourage. Ça, c'est, il n'y a rien de plus gratifiant que ça, de donner aux autres ce qu'on a reçu et de pouvoir partager la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, c'est important, comme c'est expliqué aussi dans ce verset étonnant de portée, de contacter des personnes Bhagavata. De rester en contact avec ces personnes-là. Comme c'est dit ici, page 92, voilà, début de la teneur portée. Voilà le moyen d'éliminer du cœur tous les éléments défavorables qui s'y trouvent et qui certes font obstacle à la poursuite de la réalisation spirituelle. Demeurer au contact des Bhagavata, du livre Bhagavata, comme de la personne Bhagavata. Tous deux constituent de puissantes forces purificatrices et par leur puissance séparée ou combinée, suffit à abattre tous les obstacles. Alors, est-ce que on peut trouver l'association d'une personne Bhagavata comme chez le Prabhupada? On peut trouver ça en quelque part?
Dans les livres.
Dans les livres, et à part les livres?
Pour l'instant, je oui, il y a des dévots qui, des, mais des purs dévots qui ont des prabhus, mais ce sera pas pareil.
On va dire c'est pareil d'un point de vue de niveau absolu.
Oui.
Mais c'est pas là que je veux en venir.
D'accord.
On peut trouver l'association Bhagavat de Srila Prabhupada dans des classes de Prabhupada.
Ah ben oui.
Alors, il y a les livres, oui. Il y a les classes de Prabhupada.
Oui, oui, oui.
Il y a des vidéos
C'est ça, oui.
Sur Prabhupada. Et ça, c'est là. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a les livres, il y a les classes, il y a les vidéos. Il y a les temples, mais du point de vue auditif, c'est ce qui peut nous rapprocher le plus rapidement, et c'est ce qui reste pour Prabhupada. C'est les classes, et si vous écoutez des classes régulièrement de Srila Prabhupada, à un moment donné, ça va cliquer dans le sens que vous allez vous apercevoir que ça a vraiment un impact sur votre conscience, sur votre cœur, même si vous avez jamais vu Prabhupada en personne. Et c'est juste comme ça. Parce que même en voyant Prabhupada en personne, mais si le message ne rentre pas, vous pouvez être là physiquement, mais le message ne rentre pas, pour une raison ou pour une autre. Et il y a pas de faute à mettre le doigt dessus. Pourquoi un dévot n'a pas saisi, il y a un bénéfice, c'est sûr. Comme on disait tantôt, juste être en la présence, c'est sûr. Il y a un bénéfice spirituel qui est automatique. Alors, ce qui se passe, c'est que quelqu'un peut avoir eu l'association de Prabhupada, et cette association-là peut lui rester pendant des années à se rappeler de cette association-là et l'aider à devenir davantage conscient de Krishna. Ça, c'est la puissance de l'association d'un pur dévot de Krishna. Alors, il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam qui dit, c'est Yamaraj, il parle à Maharaj Yudhisthira. En tout cas, c'est dit dans ce qui est dit dans le Bhagavatam, c'est que il est dit, je pense que c'est Maharaj Yudhisthira qui est le dévot visé, auquel il est dit, vous êtes comme un lieu de pèlerinage et un moment d'association avec un grand homme comme vous suffit pour atteindre la plus haute perfection de la vie spirituelle. Ça, c'est la puissance d'un pur dévot de Krishna. Alors, un pur dévot de Krishna, il est très puissant. Et aussi, comme on vient de lire ici dans le, la teneur portée à la page 93, c'est dit ici, la raison humaine est défaillante lorsqu'il s'agit de comprendre comment on peut graduellement progresser sur la voie dévotionnelle en servant la personne ou le livre Bhagavata. Ensuite, c'est dit, mais Śrīla Nārada Deva explique ce fait en citant son propre exemple. Mais on va citer un autre exemple de la vie que l'on connaît de Narada, Narada Muni. Alors, Narada Muni est célèbre pour avoir converti un chasseur qui prenait plaisir à tuer des animaux à moitié. Ce chasseur-là s'appelait Mrigrari, Mrigrari le chasseur. Alors, un jour, Narada Muni se promène, parce que Narada Muni est un grand voyageur céleste. Il va tout partout, tant dans le monde matériel que spirituel. Alors, il se promène, puis d'un coup, il voit dans la forêt, un peu partout, des animaux qui ont été tirés avec une flèche, à moitié morts. C'est-à-dire qu'ils sont en train de, sont à l'agonie, sont en train de souffrir. Et Narada Muni se pose la question, quel est le sot? En d'autres mots, quel est l'imbécile qui est en train de tuer des animaux comme ça à moitié pour les faire souffrir? Fait que marche. Finalement, il trouve ce chasseur qui s'appelle Mrigrari. Et Narada Muni, c'est pas une personne ordinaire, il a des pouvoirs surnaturels. Et là, il lui explique qu'est-ce qui va lui arriver s'il continue comme ça. Et il lui explique, et il lui montre, visuellement parlant, des pouvoirs mystiques. Alors, c'est comme avoir une télévision devant lui, là. Il lui montre tous ces animaux qu'il a à moitié tués, vont revenir et vont le faire souffrir comme il les a fait souffrir. Alors, il le voit de... Les pouvoirs mystiques de Narada, il voit ça, qu'est-ce qui va y arriver parce qu'il est en train de chasser les animaux. Alors, comment dire, Mrigrari, son cœur change, et là, Narada Muni, finalement, l'instruit de la conscience de Krishna, parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. Et là, Mrigrari, d'accord, il accepte les principes de la conscience de Krishna et devient un dévot. Mais là, il pose une question à Narada Muni, à savoir, mais comment je vais faire pour vivre? Si je suis un dévot, puis Narada Muni lui dit, assieds-toi là, puis chante Hare Krishna toute la journée. Alors, il pose la question, comme il dit à Narada, c'est juste ça que je sais faire, aller chasser. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, Narada Muni lui dit, assieds-toi là, chante Hare Krishna, et moi, je vais m'occuper de ta maintenance. Et alors, il a confiance, il a foi en son maître spirituel, parce que Narada est devenu son maître spirituel. Il a foi. Et s'assoit et chante. Et là, dans le village, c'est comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est transmise avec les habitants du village que ce célèbre chasseur est devenu un Vaishnav, est devenu un dévot de Krishna. Alors, tout le monde veut aller le voir. Et tout le monde va le voir. Et tout le monde amène quelque chose de quoi certainement à manger. Et toutes les nécessités de la vie, et plus même, étaient rencontrées de cette façon-là. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Il avait juste à chanter Hare Krishna. Puis Narada Muni s'occupait du reste pour lui. Alors, c'est, comment on peut dire, c'est une des puissances, justement, d'un pur dévot de Krishna de transformer la vie d'un disciple pour qu'il soit justement conscient de Krishna. Alors, des fois dans les vidéos que les dévots ont fait, des vidéos de souvenirs ou de mémoires au sujet de Prabhupada, il y a des personnes qui disent justement, ils ont rencontré Prabhupada juste une fois. Ça a changé leur vie. Alors ça, c'est la puissance des grands dévots de Krishna. C'est transformer la vie. Parce que ils sont eux-mêmes un exemple vivant de Bhagavatam à 100%. Alors, il y a de quoi impressionner parce que les âmes conditionnées sont loin d'être des exemples. Et ils ont besoin d'exemples pour se purifier. Et un pur dévot de Krishna, c'est très, 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 très rare de rencontrer un. C'est même assez rare, merci, de même comprendre que ça existe, des purs dévots de Krishna. Si on n'avait pas eu Prabhupada pour nous l'expliquer, on n'aurait jamais su que ça existe. La petite vie des âmes conditionnées, c'est très limité, c'est très fermé. Et c'est très, si on peut dire entre guillemets, c'est très ordinaire. Mais la vie avec, dans l'entourage et le service d'un pur dévot, c'est tout sauf ordinaire. Ça peut sembler ordinaire, mais ce ne l'est pas vraiment. Alors, dans le sens, si on prend l'exemple de la vie de Srila Prabhupada, si vous regardez juste les classes de Prabhupada, il y a des classes partout dans le monde. Il y a des classes en Amérique du Nord, des classes en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, en Asie, en Inde, au Japon. Il y en a partout. Et c'est la même personne qui continuellement voyageait. Prabhupada a fait 13 fois le tour du monde, disons, dans une dizaine d'années. Il a commencé la conscience de Krishna en 60... Non, il est venu en Amérique en 65, et puis il a quitté ce monde en 77. Entre 65 et 77, c'est 12 ans. Il a fait 13 fois le tour du monde pendant ce temps-là. Il a prêché partout. Il a fait des dévots. C'est un exemple aussi. Quand Prabhupada est allé à Moscou, il y avait juste Prabhupada et son serviteur, Shyam Sundar. Et c'était le régime communiste à ce moment-là. Et ils étaient sous surveillance. Et à un moment donné, Shyam Sundar va au marché pour acheter des légumes, quelque chose comme ça. Puis là, il y a un garçon qui a vu Shyam Sundar, qui est venu le voir, puis ça a établi un contact, mais ça a été vite parce que Shyam Sundar lui explique, ben, notre maître spirituel est en ville pour 2-3 jours, est-ce que vous seriez intéressé à venir le voir? Donc le garçon a dit oui. Il est allé voir Prabhupada, puis 1 ou 2 jours Prabhupada l'a initié. Ce garçon-là, et c'est ce garçon-là, 1 an plus tard, en Russie, il y avait 400 centres de conscience de Krishna. Des gens qui pratiquent dans leur maison, qui s'associent entre eux autres. C'est ce garçon-là, le seul disciple de Prabhupada en Russie, qui a parti le bal pour la Russie. Alors, ça, c'est la puissance d'un pur dévot de Krishna. D'aller chercher l'âme, d'éveiller en l'âme la conscience de Krishna. Et comme on a cité ici aujourd'hui la citation de l'introduction de la Bhagavad Gita, citation, « Or, le Sanatan Dharma, par définition, est immuable. On ne peut enlever à l'âme sa fonction éternelle, pas plus que sa liquidité à l'eau ou que sa chaleur au feu. Le Sanatan Dharma est inhérent à l'être éternellement. » Alors, c'est là, c'est, le potentiel est là. Et ça prend un pur dévot pour présenter le Sanatan Dharma et engager une âme conditionnée à adopter le Sanatan Dharma, qui est la fonction éternelle de l'âme spirituelle. C'est faut être vraiment fortuné pour que ça arrive à quelqu'un. Comme c'est dit par Seigneur Chaitanya, Kona Bhagyavan Jeev, que c'est ceux qui sont Bhagyavan. Bhagyavan nous dit les plus fortunés qui vont accepter la conscience de Krishna. Être vraiment, vraiment fortuné. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. Dans la page, on commence le module 4.
Juste, mais justement, après le départ de Srila Prabhupada de ce monde,
oui.
Comment la succession a été faite au niveau de l'ISKCON rapidement, hein, parce que c'est est-ce qu'aujourd'hui on a des référents qui sont vraiment parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu des déviances et qu'il y a plusieurs mouvements qui se forment à côté ou
Ça c'est une bonne question. Bon,
parce moi
j'étais en Inde en 78. Et c'était justement le festival de Mayapur, c'était le premier festival, disons, sans la présence de Prabhupada, parce que Prabhupada avait quitté en novembre 77. Et les GBC, fallait qu'ils prennent des décisions à savoir comment ça va continuer, les gourous, après Prabhupada. Mais, la question avait été posée à Prabhupada lui-même par un de ses disciples qui s'appelle Satswarup Das Goswami, qui est toujours là. Il avait posé la question à Prabhupada, après votre départ, comment ça va fonctionner? Est-ce que les disciples sont les disciples de Prabhupada? En d'autres mots, ils sont les arrières. Comment dit ça? Les grands disciples de Prabhupada. Et Prabhupada avait répondu que ceux qui sont gourous, ben, deviennent des gourous réguliers. Ça veut dire que ça va être leurs disciples à eux autres. C'est pas compliqué, là. Mais avant que ça arrive, faut comprendre le contexte en 77. Prabhupada était malade et il y avait beaucoup de dévots qui voulaient se faire initier par Prabhupada. Alors Prabhupada, à ce moment-là, ça a duré, je sais pas moi, quelques mois, si ce n'est pas pour dire un an ou quelque chose comme ça. Prabhupada avait nommé 12 dévots dans le mouvement pour initier en son nom. Et ça, c'est ce qu'on appelait des Ritvik Gurus, c'est-à-dire un gourou qui initie au nom d'un autre gourou. Et ces dévots-là étaient Ritvik Gurus. Ils initiaient au nom de Prabhupada. Et quand Prabhupada ne serait plus là, et c'est ce qui est arrivé, ben, ils devenaient comme automatiquement des gourous réguliers. Alors, là, si ça a créé, disons, une certaine malaise dans la société, à savoir, il y en a qui disent, il y en a qui ont chialé puis qui ont critiqué beaucoup, à savoir, ces dévots-là, Est-ce qu'ils sont qualifiés, pas qualifiés? Puis là, parmi ces dévots-là, il y a des dévots qui ont tombé, qui ont fait des choses qu'ils n'avaient pas d'affaires à faire. Alors ça en a déçu beaucoup de monde. Et puis, de là à ce que, là, des dévots qui, un groupe de dévots ont pris comme position que dorénavant, ce ne sera pas des dévots, des gourous réguliers. Ça va être seulement des Ritvik gourous, puis il y a juste ce genre de gourou-là qui peut être bon, à savoir d'initier au nom de Prabhupada, même si Prabhupada n'est plus là. Et ça existe encore aujourd'hui, un certain nombre de dévots qui sont, disons, qui sont partagés comme ça. Mais, quand on réfléchit bien, avoir la tête froide et voir clair avec le temps qui a passé et avec les instructions de Prabhupada, si Prabhupada dit il devient un gourou régulier, ben c'est ce qu'il a à devenir, le dévot, qui veut prendre ce service-là. C'est un service à faire. C'est pas si quelqu'un pense oh, je veux être gourou, c'est beaucoup d'avantages, c'est beaucoup de gloire. Il n'est pas dans la bonne mentalité, là. C'est juste un service à rendre à la succession disciplique. C'est tout. Tout simplement. Oui, ça répond à la question?
Merci beaucoup. Oui, ça permet d'y voir plus clair.
Ah, c'est ça. L'autre jour, je pensais à ça. Et l'instruction de Prabhupada, de Ritvik Guru, et ça, c'est un des arguments de ceux qui ont mis dans leur tête que c'est juste ça que Prabhupada voulait. En fait, c'est faux. Parce que c'est une instruction de nature temporaire. Ça a commencé pour aider Prabhupada à initier parce qu'il ne pouvait pas initier, il était trop malade, physiquement parlant. Et que c'était pour un certain temps. Mais après, c'est fini. C'est pas indéfini dans le temps, ça. C'est ça, j'en suis absolument convaincu.
Et, oui, mais en même temps, on s'appuie quand même sur les textes qui ont été traduits par Srila Prabhupada et surtout ses commentaires, parce que sans ses commentaires, on pourrait interpréter les versets. C'est lui qui nous dirige vraiment, c'est lui qui nous conduit dans notre développement. Que ce soit oui. À titre personnel ou lors de foule et de masse, ça demeure toujours les enseignements de Krishna, bien évidemment, mais traduits et commentés par Srila Prabhupada, qui, comme tu disais tout à l'heure,
il y a trois genres de gourous. Il y a un gourou qu'on dit, Diksha Guru. Diksha Guru. Diksha veut dire initier quelqu'un. Alors, il donne, le Diksha Guru, c'est lui qui initie. Alors, c'est lui qui prend le karma du disciple. C'est lui qui lui donne un nom spirituel, qui le guide. Mais ça, c'est Diksha Guru. Mais ensuite, tu as aussi un autre gourou qui est appelé Siksha Guru. Pas Diksha. Diksha. Mais Siksha, avec un S, Siksha Guru. Et Siksha veut dire, c'est un instructeur. C'est un maître spirituel instructeur. Et Prabhupada explique dans ses livres, dans le Chaitanya Charitamrita, le Diksha Guru, on ne peut qu'en avoir un seul. Mais Siksha Guru, on peut en avoir en nombre infini, si vous voulez, ou de nombreux, nombreux Siksha Gurus. Alors, en ce qui concerne chez le Prabhupada, après, à la tête de ISKCON, Prabhupada était Diksha Guru pour ses disciples, mais automatiquement, par le fait d'avoir quitté, il devient le Siksha Guru pour le reste de la société.
De nous tous, en fait.
Oui, de tout le monde. Et personne ne peut réclamer personne ne peut prendre cette position-là de Prabhupada. Personne. C'est tout simple que ça, là. C'est Prabhupada, l'acharya fondateur. C'est lui qui a établi les principes à ISKCON. C'est lui qui a fondé ISKCON. Puis il faut suivre là-dedans. Il faut suivre ce qu'il a mis en place. Et la beauté de ISKCON, c'est que tout est là. C'est pour ça qu'il y a des dévots qui critiquent outre mesure ISKCON. Mais toujours est-il que ISKCON, c'est la place qui est déjà toute préparée d'avance pour prendre quelqu'un, l'initier ou l'introduire à la conscience de Krishna. Puis cette personne-là, ça prend avantage. Elle peut développer sa conscience de Krishna le plus loin possible.
Merci.
C'est aussi simple que ça. Là. Il n'y a pas de restriction, de limitation. Il n'y a pas de discrimination. C'est ouvert à tout le monde.
C'est ce que je trouve aussi. C'est pour ça que je me suis retrouvée, en fait. C'est la liberté avec la rigueur mais la liberté, justement, il n'y a pas de... Comme ce que tu viens de dire, en fait.
C'est ça. C'est ouvert.
On ne s'arrête pas à des choses matérielles, figées. Tu viens de tel coin, de tel truc, de telle caste, de cette... Non, c'est ouvert à tous. Dès qu'on est sincère.
C'est ça. Prabhupada lui-même, dans des instructions, Prabhupada nous disait, ne créez pas des factions. En anglais, on dit, don't create factions. Des petits groupuscules fermés. Prabhupada n'en voulait pas de ça. Il voulait pas ce genre au nom de suivre Prabhupada, nous autres, on suit. C'est la même chose avec les djihadistes. C'est la même chose. Ils prennent l'islam puis tournent ça d'une façon qu'il y a juste leur point de vue puis et c'est fermé, 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 fermé. C'est incroyable. Non, Prabhupada ne voulait pas ce genre de...
De cloisonnement.
De raisonnement-là.
Mm-hmm.
Non? C'est la même chose avec les femmes dans le mouvement. À un moment donné, il y avait des dévots, la façon qu'ils voyaient les femmes et qui voulaient, disons, transmettre leur façon de voir les femmes. Ça ne matchait pas avec ce que Prabhupada lui-même, sa façon de traiter avec les femmes. Les femmes étaient bienvenues dans le mouvement de la conscience de Krishna avec Prabhupada. C'est aussi simple que ça, là. Prabhupada n'a jamais rejeté de femmes. Jamais, jamais, jamais. Alors, c'est comme il y avait quelqu'un qui me disait dans ma famille, au sujet des femmes, que c'est quand même plus de 50% de la société. Alors, tu peux pas rejeter comme ça là, la moitié de la société juste pour un prétexte quelconque. Là.
Mm-hmm.
Et dans toutes les religions, je lisais ça tout dernièrement de Prabhupada, qui disait, la différence entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne les femmes ont plus de facilité à accepter la suprématie de Dieu, la personne suprême. C'est plus facile pour elles. Alors, c'est pourquoi c'est dit, Prabhupada explique, c'est pourquoi on voit dans toutes les religions, il y a toujours plus de femmes qui adhèrent. Parce que c'est plus facile pour elles d'accepter. Pour les hommes, c'est une autre histoire, parce que les hommes sont plus machos, disons peut-être de nature, alors pour eux autres.
Oui. J'avais lu ce commentaire-là aussi, ou cette classe quand il parle de ça. Effectivement, il explique qu'en fait, c'est parce que nous, les femmes, en fait, on est, dès le départ, dans les sociétés, habituées à servir le frère, le père, donc on est habitué à toujours, donc on est plus docile, entre guillemets, que l'homme qui a un ego, surtout s'il a beaucoup de pouvoir et qu'il est, alors lui, il aurait du mal à quitter sa position de je suis ça et ça et ça.
Ouais,
C'est
c'est en
ça,
plein
quoi.
ça. Ouais. Alors, que voulez-vous? C'est...
Bah, c'est aussi, je pense aussi, le fait qu'on est en plein Kali Yuga et que c'est aussi une des raisons aussi peut-être que les femmes sont encore plus tournées.
Ouais, il y a ça. Et... Prabhupada écrit aussi dans le Bhagavatam que les femmes, en fait, sont plus fortes que les hommes. Il donne l'exemple de Cléopâtre. Cléopâtre et d'autres, là. César et Cléopâtre. Que les femmes sont plus fortes même que les hommes. Alors, d'où la raison pour Prabhupada, peut-être pas spécifiquement ça, mais Prabhupada a vu en les femmes un atout pour propager le mouvement de la conscience de Krishna. Tu peux pas rejeter les femmes et dire, OK, nous autres, c'est les brahmacharis, c'est les célibataires, on va tous s'organiser. Hey, un instant, là. Ça marche pas comme ça. C'est pas une bonne mentalité.
Non.
Et c'est faut prendre considération de tout le monde, et puis les femmes, et puis c'est 50% de la population, puis ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours être comme ça, qu'il faut en tenir compte, et puis c'est tout.
Et puis la première
Et
est... Non,
de toute
excuse-moi,
façon, les hommes ne vont pas bien loin sans les femmes. C'est la nature humaine. Et les femmes ne vont pas bien loin non plus sans les hommes. Ça fait que les deux ont besoin de chacun l'un de l'autre. Tout simple que ça.
Juste rajouter qu'en fait, on regarde bien aussi quand au niveau de l'éducation, quand un être arrive, un être humain arrive, que ce soit un garçon ou une fille, c'est la femme qui gère au départ. Les premiers pas de l'éducation, c'est la femme.
Ouais.
Quand on le nourrit, quand on le lave, quand on s'en occupe, les 2, 3 premières années, ça, bon, maintenant, aujourd'hui, on vit des choses qui sont complètement pour moi absurdes et aberrantes dans l'éducation d'un enfant, mais concrètement, ça a été fait comme ça. Si la femme n'est pas apte à déjà donner le meilleur à ce petit être qui vient d'arriver, c'est la base déjà pour moi.
Ouais, dans une lettre de Prabhupada, Prabhupada écrivait à une dévote que soit elle avait eu un enfant ou elle allait avoir un enfant, mais elle allait être mère, ça c'est sûr. Et Prabhupada lui écrit dans la lettre, il dit, maintenant ta seule préoccupation, c'est de donner tout ton amour à cet enfant-là. Ça c'était l'instruction de Prabhupada. Et puis les femmes ont un rôle, ils sont acceptées comme des gourous aussi, parce qu'il y a plusieurs sortes de gourous, et parmi ces je pense qu'il y en a 7 en tout là, et l'épouse d'un brahmana, l'épouse d'un maître spirituel, l'épouse d'un roi sont considérées des maîtres spirituels, des dans la société, quoi. Parce que c'est la femme a un grand rôle à jouer pour transmettre justement l'éducation. Et combien de choses dans la vie courante. Ah oui, on se souvient, ma mère m'avait dit telle affaire. C'est la
Exactement.
mère qui a fait l'éducation.
C'est la référence.
Ouais, c'est la référence. Le père, mais la mère a un grand rôle à jouer.
Le père, ça vient après, en fait, dans le sens où il y a, si on est dans une vraie relation de famille telle qu'elle devrait l'être, hein, basique même, mais en plus c'est une famille de dévots, c'est complémentaire en fait.
Ouais.
Pour moi. Hein.
Ouais, t'as fait raison.
Ouais, voilà.
OK.
Ouais, c'était bien intéressant, j'ai appris plein de choses.
OK, good. Bon, alors on va arrêter le cours là. Et